Ce soir, nous recevons M. Gilles Brisson. Gilles Brisson est né en 1952 et diplômé de l'École des hautes études commerciales de Paris. Après différents postes de responsabilité au sein du groupe Rhône-Poulenc-Rohrer, qu'il a brigué en France, aux États-Unis, en Scandinavie, au Japon, en Grande-Bretagne, il est depuis 1995 le PDG de Rhône-Poulenc-Rohrer, qui s'appelle désormais Aventis Pharma, depuis sa récente fusion avec une société allemande. Donc il nous parle ce soir de la chimie pharmaceutique industrielle et de la santé. Je lui laisse la parole pour 50 minutes et après 20 minutes de questions.
Merci bien. J'ai mis mon petit instrument de torture sur la tête. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous donner l'occasion de partager avec vous un certain nombre d'informations et de réflexions sur ce thème qui nous a été proposé de la chimie pharmaceutique industrielle et la santé. Alors, c'est un vaste programme et je suis sûr que, comme pour tout vaste programme, il y aura des déçus, car les attentes doivent être élevées. Je vais certainement décevoir les ingénieurs chimistes, car je n'ai pas l'intention de vous présenter de formules chimiques compliquées, d'une part, et je décevrai aussi probablement les alchimistes, ceux qui espéreraient peut-être, en venant ici, qu'ils auraient la formule magique d'une potion magique, par exemple, la fameuse potion d'Astérix ou d'Obélix qui rend surpuissant. C'est une potion dont la formule est tenue secrète, et donc vous me pardonnerez, mais je ne la révélerai pas ce soir. Elle est d'ailleurs brevetée, et ça fait partie de la propriété industrielle. En revanche, ce que je souhaiterais faire avec vous ce soir, c'est, puisque le mariage de la chimie industrielle et de la santé a débouché sur un magnifique enfant qui s'appelle le médicament, c'est vous parler du médicament avec différentes perspectives. Et tout d'abord, puisque le thème de ce cycle, c'est à la découverte de l'homme, c'est en partant de ceux et celles qui sont soignés et guéris parfois avec ces médicaments, c'est-à-dire les patients. Et donc partir tout d'abord des dépenses de soins et les consommations de médicaments. Deuxièmement, mieux comprendre pourquoi il y a une demande pour ces soins et les médicaments en particulier qui ne cessent de croître. Mieux savoir quelles sont les différentes étapes du développement de ces médicaments. Je sais que certains d'entre vous ont assisté à cette conférence, notamment sur la thérapie génique ou bien sur l'immunologie. Mais là, je reprendrai chacune des étapes du développement et de la mise au point des médicaments, avec les étapes de recherche et les différentes approches qui ont été utilisées au cours des dernières décennies. Et puis, il faut bien dire que dans notre métier, nous considérons qu'il y a actuellement une révolution qui est en train de mettre sa marque indélébile sur cette profession avec l'identification du génome humain, et ceci remet en cause bien des pratiques passées. Je dirais que, d'une certaine façon, le titre de cette conférence aujourd'hui, la chimie industrielle, pour moi, est quelque peu obsolète et dépassée. Et je vous démontrerai, j'espère vous convaincrai, que, en fait, malheureusement, les chimistes ont perdu, au cours des dernières décennies, la compétition du médicament au profit de nouvelles entreprises qui se sont développées au cours des années 70, puis surtout 80 et 90, et que s'il n'y a pas de réaction de ces grands chimistes, eh bien malheureusement, ils sortiront de cette compétition mondiale. Et puis en fait, le grand enjeu, compte tenu des besoins médicaux, c'est de trouver les moyens d'avoir une recherche toujours plus innovante, et puis toujours avoir en tête que le médicament n'est pas un bien comme tous les autres. Il se replace dans le processus d'une politique de santé, et de ce fait, il est donc un des maillons de cette chaîne, et qu'il a des bénéfices au-delà de la thérapeutique, un bénéfice dans ce que j'appellerais l'optimisation des dépenses de santé, compte tenu qu'il y a dans ce pays comme dans bien d'autres un financement collectif à travers les impôts de la consommation de médicaments. Avant de bien sûr conclure. Alors premièrement, les dépenses de santé et les consommations de médicaments. Qui utilise et comment les médicaments sont-ils utilisés et consommés à travers le monde? Vous avez sur ce graphe une comparaison sur la part que les différents pays, notamment du monde industrialisé, consacrent à leurs dépenses de santé. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en définitive, ce sont d'une certaine façon les plus riches qui consomment proportionnellement plus en dépenses de santé. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis consomment 14% de leur produit national brut pour la santé, alors que d'autres pays, tels que la Grande-Bretagne, dépense investie d'un peu moins de 7%. Et vous trouvez la France, qui est au troisième rang, à moins de 10% de son PNB consacré aux dépenses de santé. Si on mettait sur une courbe le PNB de tous les pays du monde et puis les dépenses de santé de médicaments en particulier, vous apercevriez qu'il y a effectivement une corrélation extrêmement forte entre le degré de richesse des différents pays et la consommation de médicaments. Plus on est riche, plus on investit dans sa santé. Il y a bien sûr des exceptions. Vous pourriez démontrer que sur la droite de régression, il y a des pays tels que certains pays arabes qui consomment beaucoup moins à richesse égale que d'autres pays. Eh bien, ça vient tout simplement du fait qu'ils sont riches depuis très peu de temps et qu'ils n'ont pas encore eu le temps de créer toute une infrastructure, par exemple hospitalière, et que ce n'est qu'une question de temps. À l'inverse, vous trouvez aussi des pays qui consomment relativement moins de médicaments. Ce sont des pays tels que l'Australie ou même le Canada. Et l'une des explications, quand on cherche quelles sont les autres variables qui expliquent cela, eh bien, c'est le fait que leur population est beaucoup plus jeune. Ce sont des pays neufs avec des populations beaucoup plus jeunes. Et comme vous le verrez un peu plus tard, c'est aussi d'abord et avant tout en fonction de l'âge de la population, avec la richesse, bien sûr, que l'on peut expliquer cette consommation de produits de santé, de services de santé et de médicaments. Si on regarde ensuite dans l'ensemble des dépenses de santé, quelle est la part du médicament ? Eh bien, vous apercevez que selon qu'on est un pays en voie de développement, et il n'y a malheureusement pas dans ces pays-là les ressources et les moyens d'avoir une infrastructure, notamment hospitalière, significative, et donc l'essentiel de la consommation de santé passe par des médicaments. À l'opposé, quand on est le pays le plus riche au monde, tel que les États-Unis, eh bien vous voyez qu'il y a effectivement toute une infrastructure et avec des technologies qui sont utilisées de telle façon que le médicament représente moins de 10% de l'ensemble de ces dépenses de santé. Les professionnels du médicament regardent toujours ce marché du médicament à l'échelle mondiale. En effet, soigner un cancer, une maladie cardiaque ou bien une infection, que l'on soit africain, japonais, américain ou français, eh bien, ça peut se traiter avec le même type de produit. Et c'est pourquoi le marché du médicament est d'abord et avant tout un marché mondial. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord, vous n'en êtes pas surpris après les chiffres que je vous ai montrés, représente près de 40% du marché mondial de la pharmacie. Et quand on regarde les nouveaux médicaments, c'est pratiquement 50% ou plus de la consommation de ces nouveaux médicaments. L'Europe, notre bonne vieille Europe, est à près de 30%, et puis ensuite le Japon. Et vous voyez que, en fait, le reste du monde, l'Amérique latine, mais l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, les pays de l'Est, donc les pays moins développés, représentent moins de 20% donc, de la consommation de ces médicaments. Comment expliquer maintenant l'évolution et quelles sont les perspectives d'avenir dans ce domaine ? Eh bien, la demande des soins est en constante augmentation, comme je le disais il y a quelques instants, tout d'abord parce que ceux qui consomment des soins de santé, ce sont d'abord les personnes âgées. Et quand on regarde l'augmentation de l'espérance de vie, qui est extrêmement rapide, ceci en est la première explication. Quand on regarde en termes de statistiques, la population de ceux et celles qui ont plus de 65 ans, eh bien vous voyez que cette année, près de 16% de notre population a plus de 65 ans, par rapport à moins de 12% il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, et que dans 15 ans, eh bien vous voyez que ça va être une véritable explosion, d'où d'ailleurs toutes ces questions sur les retraites, une véritable explosion du nombre de personnes qui auront plus de 65 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a, au-delà de l'effet, la donnée démographique, il y a aussi un autre élément qui est l'explosion de la connaissance et de l'intérêt que portent les gens et des demandes des consommateurs sur toujours davantage de santé, que ce soit à travers d'ailleurs tous ces nouveaux médias et ces nouveaux journaux qui s'adressent à des sujets de santé. Et quand par exemple on regardait ces derniers temps les statistiques sur les consultations des internautes aux États-Unis sur le web, eh bien, il apparaît que dans 60% des cas, les questions qui sont posées sont des questions posées au sujet de la santé. Donc il y a une véritable explosion de l'information en ce qui concerne les produits de santé, les services de santé, et donc une demande spontanée des consommateurs. Le dernier point sur les besoins médicaux non satisfaits, pour moi c'est un euphémisme, puisque je crois que cet appel à l'immortalité et au bien-être, eh bien, est sans fin. Et il est très clair que, en plus, aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que les médicaments ne sont un traitement causal, donc qui véritablement guérissent, que dans peut-être au maximum 5 à 6% des cas. En effet, quand on regarde l'ensemble des produits pharmaceutiques, il faut bien comprendre que pour l'essentiel des maladies, il s'agit d'un traitement symptomatique et non pas une guérison ou un traitement fondamental. Les seuls cas qui sont vraiment objectivement des guérisons, ce sont les antibiotiques ou les antiviraux qui tuent les bactéries ou les virus. Et là, on peut véritablement parler d'un traitement causal, d'une guérison définitive. Dans d'autres cas, le traitement du cholestérol, de l'hypertension, même d'ailleurs de certains cancers, eh bien, on peut parler de traitement symptomatique, mais fondamentalement, nous ne sommes pas encore à abattre complètement la maladie. Ce qui veut dire qu'il y a manifestement, au-delà des données sociodémographiques, de l'enrichissement des populations, de l'explosion de l'information, des besoins médicaux qui ne cesseront de croître et qui seront toujours insatisfaits. Revenons plus spécifiquement sur les aspects démographiques. Vous voyez qu'il y a, si on prend la population des gens qui sont dans les pays de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vous voyez que dans 25 ans, 96% des hommes et des femmes dans ces pays-là auront plus de 60 ans. Ayant cela en tête, il faut mettre ceci en perspective avec cette courbe. Qu'est-ce que vous voyez sur cette courbe ? Comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle une morbidité, une mortalité périnatale, donc pour les bébés, pour les enfants. Vous voyez ici en bleu les dépenses de santé par personne. Et puis vous avez ici en rouge la mortalité par un million d'habitants. Et vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes encore de maladies ou même de mortalité périnatale. Et puis, lorsqu'on est un adolescent ou un jeune homme ou une jeune femme, jusqu'à l'âge de 40 à 50 ans, eh bien, vous voyez qu'il y a peu de consommation. Et puis, il y a une véritable explosion à partir de l'âge de 50-60 ans en termes de services de santé. Et donc, bien sûr, avec la mortalité. Et ceci explique, cette courbe explique pourquoi je dirais tous les économistes sont extrêmement préoccupés de la courbe démographique, car on sait que ce vieillissement de la population va déboucher sur un certain nombre de maladies qui arrivent avec le vieillissement, l'Alzheimer étant l'un des exemples les plus graves, je dirais, des conséquences du vieillissement de la population, puisque vous savez que le taux de morbidité par Alzheimer au-delà de 80 ans est absolument considérable. Si maintenant nous regardons non pas la morbidité, les maladies, mais la mortalité, eh bien, toujours en prenant les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé pour 1997, vous voyez que malheureusement, la première cause de mortalité, eh bien, ce sont les maladies infectieuses et parasitaires. Dans bien des cas, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de médicaments pour soigner ces infections ou ces parasites, pour les tuer, ces bactéries, mais c'est tout simplement, malheureusement, que notamment dans les pays en voie de développement, les populations n'ont pas accès à ces médicaments, faute d'infrastructures ou de politiques de santé suffisamment agressives. Deuxième cause de mortalité, eh bien, ce sont les maladies cardiovasculaires, tout particulièrement en Europe ou aux États-Unis, cette portion se développant de plus en plus, notamment liée au style de vie, liée à l'enrichissement des populations. Donc vous voyez, près de 30%. Troisième cause de maladie, et là aussi c'est lié en très grande partie, dans de nombreux cas, au style de vie, le cancer, les différentes formes de cancer, car malheureusement il n'y a pas un seul cancer, ça serait trop facile, les multiples formes de cancer, que ce soit des tumeurs liquides ou des tumeurs solides, les cancers du sein, cancer du poumon, cancer de l'ovaire, cancer de gastrique, etc. Eh bien, comme on le sait, malheureusement, la première cause de cancer, par exemple, pour les femmes aux États-Unis, de très récemment, désormais, eh bien, ce n'est plus le cancer du sein, mais c'est le cancer du poumon qui est lié directement au tabagisme. Et donc là, c'est véritablement lié au style de vie et pas simplement, je dirais, à des attaques externes. Donc voilà quelques-unes des grandes, je dirais, des grands fléaux qui doivent, en termes de mortalité, attirer notre attention pour orienter les priorités de nos efforts. Donc, ayant vu maintenant qui a besoin et dans quelles conditions et comment sont utilisés les médicaments, comment arrive-t-on à fabriquer un médicament? Et la première chose que je voudrais vous démontrer, c'est combien il faut être patient dans ce domaine, car c'est un très long processus. Et puisque nous avons vu qu'il y avait trois domaines particuliers en termes de mortalité, les maladies infectieuses, les maladies, le cancer et d'autre part les maladies cardiovasculaires, j'ai pris ici trois exemples qui illustrent comment, au cours des dernières décennies, des nouveaux produits ont pu être développés. Alors, le premier domaine, bien sûr, que vous connaissez tous probablement, c'est le domaine des antibiotiques avec les pénicillines. Vous connaissez tous de nom au moins Monsieur Fleming, tout en sachant qu'un Français avait déjà, un Lyonnais, travaillé sur le domaine, mais n'a pas eu la réputation, n'avait pas été écouté. Mais donc, c'est à la fin des années 20 que le mot pénicilline est apparu. Dans les années 40, que la pénicilline G a été identifiée et que les industriels, au lendemain de la guerre, ont véritablement fait à l'échelle industrielle de la pénicilline G en grande quantité. Et puis, dans les années 60, jusqu'aux années 70, par les temps qui courent, eh bien, c'est l'amoxicilline qui est devenue le produit de référence pour le traitement d'un certain nombre d'infections banales. Donc vous voyez déjà dans ce domaine-là le nombre de décennies qu'il a fallu pour arriver dans cette direction avec le 6-APA. Mais aussi, chimie industrielle, nos chimistes ont été extrêmement inventifs et ils ont créé un autre type de produit, non pas des pénicillines, mais bêta-lactamase, mais on voit des céphalosporines avec le 7-AK. Et là, nous avons eu différentes générations de produits, tous ayant au fur et à mesure des spectres d'activité de plus en plus intéressants, tuant différents types de bactéries, avec donc un spectre de plus en plus large, et une meilleure tolérance, moins de toxicité, au point que nous sommes à la fin des années 90, avec des céphalosporines, non seulement injectables, mais orales, non plus de première, mais maintenant de troisième, voire quatrième génération. Un autre domaine aussi très intéressant que nous connaissons bien dans notre entreprise, c'est le domaine des produits contre le cancer. Vous savez peut-être que les armées de Napoléon, au siècle dernier, ils avaient remarqué que les chevaux qu'ils attachaient la nuit à des arbres mouraient dans certains cas, étaient malades, jusqu'au jour où on s'est aperçu que ces chevaux, la nuit, dévoraient l'écorce de certains de ces arbres, notamment des ifs. Eh bien, en 1960, le National Cancer Institute des États-Unis a identifié qu'il y avait dans l'écorce de certains ifs, les Taxus baccata, des matières végétales dans cette écorce qui étaient cytotoxiques, c'est-à-dire en fait qui détruisaient les cellules et qui notamment pouvaient, de ce fait, détruire les cellules cancéreuses. En 1962, le principe actif a été isolé, mais malheureusement, on n'a pas réussi à fabriquer le produit en quantité suffisante, parce que pour arriver à faire 1 gramme de matière active, il fallait énormément d'écorce d'arbres, il fallait en fait abattre pratiquement des forêts entières. Et donc tout ceci avait été arrêté jusqu'à la fin des années 79, où finalement on a compris comment fonctionnait ce principe actif, la D-acétylbacatine. En 1981, ici en France, le professeur Potier, au CNRS, des substances naturelles de Gif-sur-Yvette, s'est dit, mais au lieu de partir de l'écorce, où il faut couper les arbres, pourquoi ne pas partir de l'aiguille des ifs, qui est une source renouvelable? Et à partir de ce moment-là, a été travaillé, en collaboration avec, à l'époque, la société Rhône-Poulenc, le développement d'un composé chimique très particulier, qui s'appelle le taxotère, du docétaxel. Et c'est dans les années 80 et 90 que nous sommes rentrés dans un processus aux États-Unis avec le NCI d'une part et puis d'autre part l'autre taxane donc ici en France pour le développement chez des patients cancéreux de ce type de produits. Et à la fin des années 90, eh bien, ces produits sont devenus le traitement de référence pour certaines formes de cancer. D'abord le cancer du sein, et puis depuis quelques mois, le cancer du poumon, le cancer de l'ovaire notamment, et toute autre forme de, plusieurs autres formes de cancer pour lesquelles des développements cliniques sont en cours. Troisième exemple, pour montrer le temps qu'il faut pour développer un médicament, les embolies pulmonaires représentent 4 à 5 % des décès au cours d'interventions chirurgicales. Par exemple, dans des prothèses totales de hanche ou du genou, dans chirurgie orthopédique, il y a environ 30, 40, 50 % des patients qui ont une thrombose veineuse, par exemple. En 1916, aux États-Unis, il a été démontré qu'il y avait une activité anticoagulante, donc pour dissoudre les caillots de sang, avec un produit qui s'appelle l'héparine, qui était isolé du mucus de porc. C'est à la fin des années 28, c'était le professeur Connaught, un Canadien, qui a avancé le plus dans ce domaine-là. Et pendant un certain nombre de décennies, les héparines sont devenues le traitement, je dirais, standard en ce qui concerne la prévention des embolies pulmonaires. Mais ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'ont débouché une nouvelle génération de produits qui sont beaucoup plus ciblés, qui sont les héparines à bas poids moléculaire, qui ont permis de couper dans la chaîne des héparines la partie qui était la plus intéressante et qui ont permis d'avoir davantage d'efficacité, une meilleure tolérance et beaucoup plus simple à utiliser, une seule injection, par exemple, ou deux injections maximum par jour. Ce qui fait que c'est en 1993 que, par exemple, aux États-Unis, les premiers produits ont pu être commercialisés par Ron Poulenc à l'époque. Et puis, en 1996, après des études menées sur des milliers de patients, non seulement il a été démontré que ce type de produit pouvait être utile pour la prévention des thromboses veineuses, mais aussi pour la réduction de la mortalité pour les patients qui souffraient d'angor instable, donc d'angine de poitrine. Et c'est devenu, pour la première fois, en 1999, donc vous voyez, après toutes ces années, toutes ces décennies, le traitement standard recommandé par l'American Cardiology Association. Ça vous montre donc tout le chemin parcouru, tout le temps qu'il faut pour arriver à modifier les pratiques médicales. Alors, pourquoi et quelles sont les étapes qu'il faut absolument respecter dans ce domaine de la recherche pour passer de la molécule chimique à la chimie industrielle et aux médicaments, sachant que les choses ont évolué de façon dramatique depuis les années 60 en raison d'une tragédie dont je suis certain que malheureusement vous vous souvenez tous, qui a été la tragédie de la thalidomide, qui a fait qu'à partir de ce moment-là, il a été demandé d'être beaucoup plus prudent dans l'ensemble des travaux qui étaient nécessaires pour la commercialisation d'un médicament, en faisant beaucoup plus d'études de toxicité, des études de mutagénèse, de tératogénèse notamment, afin de vérifier et de donner d'abord la priorité à la vérification de l'innocuité de ces médicaments pour que telle tragédie ne se reproduise plus en ce qui concerne donc malheureusement les malformations pour les enfants suite à l'utilisation de thalidomide. Alors, les découvertes de ces médicaments, au fil des décennies, ont évolué selon les approches. Dans un certain nombre de cas, au début, il y avait bien sûr des produits naturels. Je ne sais pas si ça va, non ? Au début des années de ce siècle, par exemple, il y avait des produits comme l'aspirine ou la pénicilline qui étaient bien sûr des produits d'origine naturelle. Et même d'ailleurs, le taxotère dont je parlais, cet anticancéreux, et comme beaucoup d'autres, proviennent de sources naturelles. Et puis, la sérendipité, c'est comme pour utiliser un mot d'origine anglo-saxonne, c'est-à-dire que souvent les chercheurs cherchent dans une direction et un peu par hasard, mais la nature fait bien les choses, et bien ils trouvent un phénomène qui est pas du tout attendu ailleurs, et c'est souvent à l'origine de nombreuses découvertes, notamment dans les psychotropes, et même, il faut beaucoup d'originalité parfois, même pour le nom de certains psychotropes, vous connaissez probablement le Gardénal, un produit des années 50, où on cherchait un nom original pour ce produit, on ne savait pas comment l'appeler, et quelqu'un a dit, mais pourquoi ne pas garder Nal, de toute façon, d'où le nom du produit Gardénal, ce qui explique pourquoi le Gardénal est devenu une référence au-delà de l'originalité de la découverte. Et puis, s'est développée la réceptérologie pour un certain nombre de domaines, notamment donc, avec des produits qui ensuite sont sortis comme les bêta-bloquants, ou l'angine de poitrine, les antagonistes anti-H2 pour l'ulcère. Et puis ensuite, les gens ont beaucoup travaillé pour bloquer l'activité d'enzymes. Dans ces enzymes, vous avez les inhibiteurs d'enzymes de conversion de l'angiotensine 1 à l'angiotensine 2 pour l'hypertension, ou bien les HMG coréductases pour le cholestérol. Dans les années 80, une nouvelle technologie est arrivée, le génie génétique, et nous avons vu apparaître un certain nombre de produits, tels que produits comme l'EPO, comme vous le savez, pour développer un certain nombre de déficiences, d'anémie, pas simplement pour les sportifs, malheureusement, mais surtout pour, dans le cadre des hémodialyses. Et puis, surtout aujourd'hui, la révolution qui est en train de se passer, eh bien, c'est toute la révolution qui a trait à la pharmacologie cellulaire, moléculaire, et puis surtout la génomique qui va nous permettre d'identifier des gènes et d'agir éventuellement sur ces gènes de telle façon que les déficiences génétiques puissent être progressivement corrigées. Et on peut espérer, dans cette direction, avoir enfin une activité sur des maladies dégénératives liées à l'âge, telles que l'Alzheimer ou l'inflammation ou bien certaines formes de cancer. Comment nos chercheurs fonctionnent-ils? Quelles sont les différentes étapes? La première chose, bien sûr, c'est que pendant toutes ces années, il faut d'abord savoir là où on veut taper, identifier des cibles et des modèles in vitro, in vivo, animaux, qui permettent de pouvoir identifier effectivement une cible et montrer qu'une molécule est active. Ensuite, il faut mettre en place des systèmes pour faire ce qu'on appelle du screening, c'est-à-dire passer dans un tamis des molécules, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de molécules, donc passer au crible pour voir quelle est la molécule qui aurait une activité dans le modèle, dans la cible que nous avons identifiée. Ensuite, il faut essayer de voir si, une fois qu'on a trouvé, on a une touche, comme on dit dans notre jargon, une molécule qui semble avoir une activité, comment on peut optimiser cette molécule en changeant certains radicaux pour avoir une molécule qui soit plus active ou moins toxique, de telle façon que l'on ait un médicament qui puisse être optimisé. On rentre dans les études de toxicologie pour vérifier si le produit n'est pas trop nocif. On commence par des modèles, bien sûr, in vitro, pour utiliser le moins d'animaux possible, et puis aussi sur des souris, des rats, et puis éventuellement des espèces animales plus développées. Et à ce moment-là, lorsqu'on a l'impression, et plus qu'une impression, des preuves comme quoi le produit n'est pas trop nocif, à ce moment-là, nous envisageons de prendre la décision de passer pour des expérimentations chez l'homme, en accord, bien sûr, avec les autorités de santé. Et nous faisons des demandes auprès des pouvoirs publics, du ministère de la Santé, aux États-Unis, en Europe, ici en France, pour avoir l'autorisation de passer à des expérimentations cliniques, avec là trois phases. La première phase qui vise à vérifier si le produit n'est pas trop toxique. Et là, nous travaillons chez des sujets sains, des volontaires sains, sauf bien sûr pour les produits anticancéreux qui détruisent des cellules, des cytotoxiques. Et dans ce cas-là, nous passons directement, bien sûr, chez des patients qui souffrent de cancer, et notamment au stade terminal, lorsqu'ils n'ont plus aucun espoir. Là, nous essayons d'expérimenter ces nouvelles drogues pour voir si au moins ces nouvelles drogues peuvent avoir une activité. Après avoir vérifié la faible toxicité du médicament, nous passons dans la phase 2, et là, nous cherchons le rapport idéal entre la dose la plus efficace et la dose la plus toxique, et trouver donc le meilleur équilibre. Est-ce que c'est 10 mg, 100 mg, 50 mg, sachant que pendant toute cette période-là, bien sûr, les galénistes, les pharmacocinéticiens, tous ces professionnels de la pharmacie, eh bien, essaient d'optimiser la forme galénique, le comprimé, la gélule, la forme injectable, le suppositoire, comme on le faisait dans le passé, qui puisse être administré dans les meilleures conditions. Et enfin, nous arrivons à la phase 3. La phase 3, c'est le moment où nous comparons le médicament qui a été développé, dont on a choisi la dose optimale, avec les autres médicaments qui existent déjà, pour vérifier si, oui ou non, ce nouveau médicament est plus efficace ou est encore mieux toléré que les médicaments qui existent. Car à quoi sert d'avoir un nouveau médicament s'il n'apporte pas de bénéfice par rapport à ce qui existe déjà? Donc, aller toujours de l'avant dans le progrès thérapeutique jusqu'à la démonstration que ce produit est meilleur, plus efficace ou mieux toléré, ou d'une administration facilité pour les professionnels de santé. Et on recueille l'ensemble de ces données pour un dossier d'enregistrement qui est soumis au ministère de la Santé, généralement désormais maintenant au niveau européen, mais et au niveau de chaque pays, et aux États-Unis avec la fameuse Food and Drug Administration. Et à ce moment-là, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, nous obtenons un enregistrement, une autorisation de mise sur le marché, ce qui nous permet à ce moment-là d'envisager la commercialisation. Et vous, c'est plus de 10 ans qu'il nous faut entre l'idée de nos chercheurs pour trouver une nouvelle cible et le moment où nous pouvons envisager d'éventuellement commercialiser, si l'on a réussi, un nouveau médicament. Et donc, quand on reprend ce même schéma de l'identification des cibles jusqu'à l'enregistrement, dans les faits, il faut partir de plusieurs milliers de molécules qui sont testées dans nos laboratoires au criblage pour arriver progressivement à éliminer tous ces produits qui ne sont pas suffisamment efficaces ou tous ces produits qui sont trop nocifs pour avoir enfin une molécule qui devient un médicament. Donc, en gros, pour 10 000 molécules qui sont testées dans le screening, dans le criblage, eh bien, on arrive à avoir un médicament dont on n'est pas sûr d'ailleurs qu'il se vendra avec succès. Ce qui s'est passé depuis les années 60, compte tenu de la volonté d'avoir des médicaments toujours mieux tolérés et toujours plus puissants, donc au lieu de donner des grammes et plutôt quelques centaines de milligrammes ou dizaines ou voire milligrammes ou microgrammes, eh bien, c'est que le degré d'exigence en termes d'efficacité et de sécurité s'est renforcé. Et quand on dépose un dossier d'enregistrement, eh bien, nous devons faire de plus en plus d'études cliniques, notamment. Et dans chaque dossier, désormais, le nombre d'études, d'essais cliniques que nous devons faire dépasse largement la cinquantaine. Nous sommes désormais près d'une centaine d'études cliniques qu'il faut réaliser pour pouvoir déposer un dossier. Et dans chaque étude clinique, eh bien, au début, quand on teste chez des volontaires sains en phase 1, c'est quelques patients ou quelques dizaines de patients. Et dans les études de phase 3, ce sont des études qui représentent plusieurs milliers de patients, voire maintenant 10 à 20 000 patients pour des très grands essais à l'échelle mondiale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ces données ici qui vous montrent plus de 4 000, ceci remonte aux années 94-95, en fait, dans nos dossiers désormais, sauf cas exceptionnel, nous avons facilement entre 5 à 10 000 patients minimum dans nos dossiers d'enregistrement. Ce qui veut dire que concrètement, quand on regarde pendant tout ce temps-là, le coût pour avoir un dossier d'enregistrement pour un médicament qui pourra être éventuellement commercialisé monte pratiquement au ciel. Si vous voulez, au début des années 60, milieu des années 75, 76, on parlait à l'époque d'environ 100 à 200, 300 millions de francs pour avoir un médicament. Quand on prend l'ensemble de tout ce qu'on a dépensé, en 1996, eh bien, toutes les études montrent que nous sommes à plus de 3 milliards de francs pour avoir un nouveau médicament. Dans les années 2000, il est clair qu'on aura pour un médicament dû investir aux alentours de 4 à 5 milliards de francs. Et il aura fallu beaucoup de patience, au moins 10 ans, pour avoir ce médicament. Donc, des milliards pour avoir un nouveau médicament. Concrètement aussi, quand on veut déposer un dossier d'enregistrement, le cumul de l'ensemble de ces données, toutes ces statistiques, eh bien, à titre d'exemple, le produit anticancéreux auquel je faisais allusion tout à l'heure, lorsque nous avons déposé en 1994 notre dossier d'enregistrement, eh bien, c'était un camion de 17 tonnes avec 10 000 classeurs, 1 560 cartons, 110 palettes. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui nous sommes très heureux de voir l'avènement d'Internet, car désormais, ce type d'information va pouvoir être transmis par email, par courrier électronique et non plus simplement avec cette manipulation de dossiers qui sont absolument, ceci bien sûr étant dans un pays, mais vous imaginez que quand on dépose un dossier d'enregistrement dans une centaine de pays à travers le monde, eh bien c'est une masse de travail absolument considérable. Alors, quand on a cela en tête, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est en train de chambouler ? Eh bien, ce sont essentiellement, bien sûr, les nouvelles technologies avec des perspectives totalement différentes en raison de l'apparition, d'une part, de la génomique, de la chimie combinatoire, des technologies de l'information et de l'automatisation, pour le criblage ou bien pour, comme je le disais, l'email, l'internet pour les dépôts de dossiers et pour l'expérimentation clinique. Et tout ceci doit contribuer à améliorer la productivité de la recherche. Il est clair que ces nouvelles technologies nous permettent d'abord et avant tout de chercher à identifier plus facilement de nouvelles cibles. C'est la génétique, la génomique, la protéonomique. Tout ceci nous permet d'identifier des cibles. Il faut savoir où l'on peut orienter un médicament. Lorsqu'on veut améliorer les têtes de série, chercher de nouvelles entités chimiques, ce sont bien sûr les automates qui travaillent désormais jour et nuit, ces automates qui font le screening, le criblage, ce qu'on appelle le criblage à haut débit, qui peuvent désormais, chaque année, tester en fait, désormais des millions de molécules et non pas simplement quelques centaines ou quelques milliers de molécules. Et puis, dans les essais cliniques, il est clair que si l'on pouvait identifier à travers la pharmacogénomique quels sont les patients qui ont les gènes qui les prédisposent à être des répondeurs, eh bien dans ce cas-là, nous pourrions aller plus facilement dans l'identification des patients qui, étant les répondeurs, pourront vérifier effectivement quelle est l'efficacité de ces molécules. Potentiellement, la génomique décuple les voies de recherche pour les nouveaux médicaments. Actuellement, nos chercheurs ont à peu près 500 cibles pharmacologiques pour voir si les médicaments peuvent avoir une certaine action. Comme vous le savez, le génome humain, c'est plus de 100 000 gènes et ceci devrait nous permettre d'avoir entre 3 000 et 10 000 cibles pharmacologiques supplémentaires qui nous permettraient de tester des nouveaux médicaments. Ces nouvelles méthodes de synthèse aussi, nous pensons bien sûr là, à la synthèse séquentielle qui jusqu'à présent nous permettait d'avoir la synthèse de 4 composés par chimiste. Mais désormais, avec les chimies combinatoires, ce sont des millions de composés que l'on peut avoir dans des mélanges, comme on dit dans le jargon, dans de la soupe par personne. La synthèse parallèle à haut débit qui doit pouvoir aussi contribuer et la synthèse parallèle à ultra haut débit qui devrait permettre aussi dans les mois, les années qui viennent, de passer à une tout à fait autre échelle. Et donc, on doit pouvoir, et tous les mois, ça s'accélère, multiplier d'un facteur considérable la productivité en termes de préparation de molécules chimiques qui peuvent donc éventuellement être testées sur de nouvelles cibles. Et si l'on reprend ce schéma qui montre tout... le temps qu'il faut consacrer à la recherche et au développement pour aller jusqu'au marché, eh bien, il est clair que ces nouvelles technologies du criblage à haute vitesse, la chimie combinatoire, doivent nous permettre de réduire de façon considérable demain l'ensemble de ces techniques et de ces efforts au laboratoire, aller beaucoup plus vite en termes de recherche, sachant qu'en revanche, nous serons toujours plus exigeants, à juste titre, dans la partie du développement clinique et pharmaceutique, pour aller toujours plus loin, pour limiter les risques, même si ce risque est infinitésimal, pour tester toujours davantage les médicaments dans un nombre de plus en plus grand de populations et de patients. Et donc, ceci prendra toujours autant de temps, voire plus de temps que ça ne pouvait être le cas par le passé. Alors, un des problèmes qui est fondamental, c'est qu'en fait, vous le savez, les médicaments... Par exemple, l'hypertension, généralement pas plus de 1 patient sur 2 répond à son traitement contre l'hypertension en monothérapie. Et donc, il y a certainement des prédispositions génétiques dans un certain nombre de maladies. Et alors que les patients sont différents sur le plan génétique, actuellement, c'est le même médicament que l'on utilise pour tous les patients. Et donc, il y a une déperdition. Et bien sûr, le rêve que nous avons, c'est que la pharmacogénomique permettent d'adapter les médicaments aux besoins des patients en fonction de leur profil génétique pour avoir une véritable prescription qui, à terme, pourrait devenir individualisée en fonction du diagnostic génétique, de telle façon que pour un même type de pathologie, pour des patients dont on aurait pu faire un diagnostic génétique, eh bien, nous aurions à ce moment-là développé des médicaments spécifiques pour ce type de patients, avec donc un gain de temps, une réduction de coûts, puisque donc les produits étant plus ciblés, et bien il y aurait davantage de répondeurs, et donc là, une meilleure gestion des dépenses de santé. Alors, comment aller de l'avant pour avoir une recherche toujours plus innovante? Eh bien, d'abord, c'est une mise en commun des ressources, faire des accords de recherche à travers le monde entier, protéger l'innovation pour encourager des gens à investir dans ce domaine de la recherche médicale et pharmaceutique. Et puis, quand on parle de 3 à 4 milliards pour avoir un nouveau médicament, il n'y a pas d'autre solution pour rentabiliser cet investissement considérable que de mondialiser et faire bénéficier tous les patients dans le monde entier de ces découvertes qui permettent vraiment d'améliorer la santé. Quand nous regardons les industriels du médicament, nous voyons qu'au moins 6 des 10 premières entreprises pharmaceutiques à l'échelle mondiale sont des entreprises qui résultent de fusions. C'est le cas des fusions qui ont été annoncées ces dernières semaines, même si elles ne sont pas consommées. Les mariages ne sont pas encore consommés. Vous voyez, Aventis, qui est aujourd'hui la première société, dans quelques semaines, risque de passer au troisième rang lorsque Glaxo aura fusionné officiellement avec SmithKline, Pfizer avec Warner Lambert, AstraZeneca, etc. Donc, manifestement, la mise en commun des moyens est absolument une nécessité pour arriver à avoir suffisamment de ressources pour investir en recherche et développement compte tenu du coût de développement de ces nouvelles molécules. Ces entreprises pharmaceutiques, désormais, sont obligées de consacrer au moins 1, voire 2 milliards d'euros ou de dollars, et même la plus grosse entreprise, elle est actuellement, investit 3 milliards d'euros ou de dollars. Donc, ça fait pratiquement 20 milliards de francs chaque année pour faire la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Ce sont donc des sommes absolument phénoménal qu'il faut investir en recherche et développement. Et en même temps, il y a un redéploiement de ces budgets de recherche et développement. Dans les années 50, 60, 70, jusqu'au début des années 80, on faisait tout soi-même au sein de ces entreprises pharmaceutiques. C'est ce que, de façon un peu imagée, on appelait la théorie du porte-avions, où il fallait être autonome. On avait tout pour pouvoir, à l'intérieur de l'entreprise, comme sur un porte-avions, pendant des mois, voire des années, se développer. Et bien désormais, avec les nouvelles technologies, aucune entreprise, aucun industriel n'est capable de maîtriser la totalité de ces technologies nouvelles qui existent. Et bien ce qu'il faut, c'est avoir des partenaires qui sont soit des sociétés de biotechnologie, des start-up, comme l'on dit, et puis surtout les laboratoires universitaires, la recherche académique qui fait la recherche fondamentale, qui cherche à identifier, à mieux comprendre la physiopathologie, notamment, pour, comme on l'a vu dans le domaine du sida, arriver à identifier quelle est l'origine de la maladie et, à partir de ce moment-là, faire de la recherche pharmaceutique appliquée pour trouver des outils de diagnostic, d'une part, et puis des médicaments qui peuvent lutter dans le cas spécifique du sida. Donc, partager l'expertise avec des complémentarités entre ces différentes expertises, entre les différents partenaires. Ceci apparaît d'autant plus nécessaire que dans le domaine de la génomique, eh bien, la recherche académique, les firmes biotechnologiques sont bien sûr à la pointe dans ce domaine-là. Vous avez ici le nombre et l'origine des brevets qui ont été déposés sur les gènes humains. Et vous voyez qu'une grande partie provient d'universités, notamment américaines, mais aussi de sociétés de biotechnologie, des start-up essentiellement américaines, là aussi. Et les entreprises pharmaceutiques mondiales établies, bien sûr, ne représentent qu'une faible part de ces ensembles. Et donc, on assiste actuellement à une multiplication des accords de recherche entre les sociétés de biotechnologie, par exemple, et les grands laboratoires pharmaceutiques. On le voit tant en nombre d'accords qui sont signés chaque année, une forte croissance, quand on regarde le montant de ces contrats qui désormais se monte à des centaines de millions de dollars chaque année de financement de ces nouvelles sociétés de biotechnologie par des grandes entreprises pharmaceutiques. À titre d'exemple, notre entreprise, Aventis, société française, ex-Rhône-Poulenc, consacre un quart de notre budget de recherche pour des accords extérieurs. Et par exemple, nous travaillons avec l'ANRS dans la lutte contre le sida, le CNRS avec 4 unités, la Fondation Marcel Mérieux, la Fondation de recherche que nous avons qui finance pour plus de 200 millions un groupement d'intérêt public, avec l'Université de Lille, l'Institut Pasteur de Lille, GenFit, la Génopole d'Evry pour l'identification de gènes, notamment dans la recherche pour des maladies neurodégénératives, Alzheimer ou Parkinson, avec l'INSERM, l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy pour la recherche contre le cancer, l'Institut Pasteur, le réseau Alzheimer, les universités scientifiques, pharmaceutiques, etc., etc. Il est clair que c'est un travail de partenariat où chacun doit apporter sa pierre à l'édifice qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite pour l'identification de nouvelles thérapeutiques. Il faut aussi avoir en tête que cette propriété, cette recherche ne peut aller de l'avant que lorsque la propriété intellectuelle est respectée. Et parfois, c'est remis en cause. Et là, vous avez la description qui montre bien que dans la moitié des cas, les médicaments sont protégés par des brevets. Et dans l'autre moitié, en gros, si vous voulez, ce sont des copies qui, dès que le brevet est tombé, dans le domaine public, des génériques, comme l'on dit, qui viennent copier et qui n'ont pas eu à investir tout cet argent en recherche et qui, à ce moment-là, réalisent les ventes de ces produits. Et donc, le problème pour encourager toujours davantage les gens à investir dans la recherche médicale, dans la recherche pharmaceutique, et pour cela, il faut qu'il y ait une protection industrielle et intellectuelle, la durée des brevets tient compte de l'allongement au fil des années du temps qu'il faut pour le développement. Avant, il fallait à peine quelques années pour obtenir un enregistrement. Désormais, il faut facilement, donc, comme vous l'avez vu, une dizaine d'années entre le moment où on démarre les expérimentations et le moment où on peut commercialiser. Donc, c'est 25 ans au maximum en Europe, 20 ans aux États-Unis, mais à partir du dossier d'enregistrement, ce qui permet donc ensuite d'exploiter pendant une période ces médicaments. Et ça, c'est un élément fondamental si l'on veut pouvoir attirer toujours davantage de gens pour investir dans la recherche médicale et pharmaceutique. Mais lorsqu'on a un nouveau médicament, ce n'est pas forcément une révolution médicale. En effet, dans certains cas, ce sont des produits qui ont une structure chimique nouvelle, mais dans d'autres cas, ce sont des structures très proches, très connues. Dans certains cas, on n'arrive pas à démontrer de bénéfices thérapeutiques, et dans ce cas-là, on appelle ça des copies, des génériques, voire des me-too. C'est exactement la même chose que ce qui existe déjà. Ou bien des innovations faibles, parce qu'il n'y a pas vraiment de bénéfices thérapeutiques, même s'il y a une originalité chimique. Mais dans certains cas, au contraire, effectivement, on peut démontrer qu'il y a une structure nouvelle, et puis en même temps, donc, il y a un véritable bénéfice thérapeutique. Et c'est là, véritablement, où il y a des innovations importantes. Et je reprends ce schéma-là d'un livre qui est en train d'être publié par M. Étienne Barral. Et donc, quand on regarde bien, il y a très très peu de médicaments nouveaux qui représentent une véritable innovation, un bénéfice significatif. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les médicaments qui sont des copies, peu de bénéfices, ceux qui représentent ces innovations faibles, ou les innovations moyennes, ou l'innovation au contraire importante, si vous regardez le pourcentage de ces produits qui sont diffusés dans le monde entier, il est clair que la mondialisation donne une prime à l'innovation et qu'il ne faut pas espérer mondialiser vos produits s'ils n'apportent pas un véritable bénéfice, progrès thérapeutique. Et c'est cela vraiment qu'il faut avoir en tête. Nous devons investir d'abord pour le progrès de la santé dans des médicaments qui sont de véritables innovations dont tous les patients du monde entier peuvent bénéficier. Et puis, il y a d'autres éléments qui, à travers cette mondialisation, sont des étapes absolument considérables. Premièrement, vous le savez, c'est ici l'harmonisation européenne qui favorise l'internationalisation de ces médicaments, avec d'une part, depuis très peu de temps, la libre circulation des médicaments ici en Europe, la création de l'euro, la monnaie unique, mais aussi et des éléments très spécifiques au domaine pharmaceutique, c'est la mise en place ces dernières années de l'équivalent d'une Food and Drug Administration au niveau européen, qui s'appelle CPMP, au sein de l'EMA, c'est basé à Londres, pour des enregistrements centralisés. Il n'y a plus qu'un seul dossier d'enregistrement qui est nécessaire pour les 15 pays de l'Europe et non pas 15 dossiers d'enregistrement différents. Le développement des bonnes pratiques cliniques pour s'assurer de la bonne des bonnes méthodes en ce qui concerne la conduite des essais cliniques, les bonnes pratiques de fabrication, de production, pour s'assurer que les médicaments soient fabriqués dans les meilleures conditions de sécurité et d'hygiène, l'harmonisation de la politique dans le domaine des brevets, et enfin, après toutes ces années, avec beaucoup de retard sur les États-Unis, la mise au point d'une législation au niveau européen en faveur des médicaments orphelins. Vous savez qu'il y a en fait pratiquement 5 à 6 000 maladies qu'on appelle des maladies orphelines, c'est-à-dire des maladies qui ne concernent que très très peu de malades, quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de patients en Europe. Et là, manifestement, il faut un statut spécifique dans ce domaine. Enfin, une législation qui encourage la recherche dans ce domaine, car vous pouvez imaginer que lorsqu'il faut investir des milliards et des milliards pour essayer d'avoir éventuellement la chance d'avoir un médicament qui peut soigner une maladie, s'il n'y a qu'une centaine de personnes dans le monde entier qui peuvent bénéficier de cette thérapeutique, eh bien, c'est très difficile de trouver des gens qui veuillent investir dans ce domaine-là. Et donc, trouver un environnement législatif favorable au développement d'entreprises qui pourront travailler dans ce domaine. C'est la législation européenne, l'harmonisation, mais en même temps, le médicament faisant l'objet dans un certain nombre de pays d'un financement collectif à travers les systèmes de sécurité sociale notamment, eh bien, il y a des éléments liés aux médicaments qui sont spécifiques, non pas à l'Europe, mais à chaque pays au sein de l'Europe. Notamment, la souveraineté des États dans le domaine des médicaments concerne les assurances sociales, la sécurité sociale dans ce pays, le National Health System en Angleterre, par exemple. Les taxes, il existe des taxes, le taux de TVA peut varier d'un pays à l'autre. Il y a des taxes sur l'information médicale, la publicité, qui sont spécifiques à la France, par exemple. La fixation des prix de vente, eh bien, dans certains pays, c'est libre pour les nouveaux médicaments, tels que l'Allemagne ou bien la Grande-Bretagne ou des pays du nord de l'Europe, ou bien c'est administré, c'est fixé par les pouvoirs publics, et même les marges de distribution par les grossistes-répartiteurs, les pharmacies d'officine, eh bien, tout ceci est du domaine de la souveraineté des États et n'est absolument pas encore harmonisé au plan européen. Et quand on regarde les pays où les prix sont libres, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un processus très particulier. En effet, les sociétés doivent investir de façon considérable lorsque les prix sont libres pour investir en recherche, car dès qu'il y a une perte du brevet, eh bien, s'engouffrent à ce moment-là les sociétés qui vendent des copies, des génériques, qui, elles, n'ont pas eu tous les frais de recherche, n'ont pas eu à investir des milliards, et donc peuvent vendre le médicament, qui est une simple copie, à un prix qui peut être la moitié ou même 30% moins du prix vente. Et donc, automatiquement, il y a un effondrement des ventes de la société qui a fait de la recherche et qui a donc vendu le médicament à un prix qui a permis de rémunérer cet investissement en recherche-développement. À l'inverse, quand vous êtes dans un pays où les prix sont administrés, généralement, les prix sont beaucoup plus bas pendant toute la période qui suit le lancement du médicament. Et donc, l'écart par rapport à un prix d'une copie d'un générique est très faible, de 10, 20, 30% seulement. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas le même effondrement. Et donc, ce sont deux éléments qu'il faut avoir en tête dans une politique de santé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, quand on regarde quelles sont les entreprises qui réussissent dans le domaine du médicament à l'échelle mondiale, eh bien, ce sont les sociétés, les entreprises qui sont originaires des pays à prix libre qui dominent le marché mondial. En effet, quand on regarde l'origine nationale, parmi les 100 premières entreprises industrielles pharmaceutiques à l'échelle mondiale, vous voyez que plus du tiers sont des sociétés américaines avec des prix libres. Vous avez des sociétés allemandes, des sociétés britanniques ou des sociétés suisses, donc des entreprises qui viennent de pays où les prix sont libres. Et il n'y a en fait que quelques sociétés françaises et quelques sociétés japonaises où les prix sont administrés qui sont parmi les grandes entreprises pharmaceutiques mondiales. Quand on regarde, et c'est encore plus complexe comme analyse, la position de ces sociétés dont l'origine du pays est un pays où les prix sont libres. Et si on fait abstraction de leur pays d'origine, les Japonais, bien sûr, eh bien, sont dans une situation où ils n'ont pas réussi à mondialiser leur activité, à la différence de l'automobile ou bien de l'électroménager, eh bien, on s'aperçoit véritablement que ce sont les entreprises qui sont d'origine de pays où les prix sont libres qui véritablement dominent le marché mondial. Et donc, manifestement, il y a à travers cette liberté des prix une incitation à investir en recherche, à donc progresser, trouver des innovations et donc d'arriver à conquérir le monde à travers ces innovations. Ce sont effectivement, à travers l'internationalisation des produits innovants que l'on peut réaliser les investissements du futur. Quand on regarde, par exemple, sur des produits que nous avons découverts ici en France, dans nos laboratoires de recherche, eh bien, la France, quand on regarde les ventes, représente moins de 10% des ventes et 90% des ventes sont réalisées en dehors de la France et notamment les États-Unis qui représentent désormais la moitié des ventes des produits qui sont issus de nos laboratoires de recherche ici dans l'Hexagone. L'un des derniers points que je voudrais développer ce soir, c'est qu'il ne faut pas oublier que le médicament apporte beaucoup de bénéfices de nature différente. Premièrement, dans nombreux cas, il contribue à la réduction de la mortalité. Il réduit la prévalence, l'incidence des maladies. Il diminue les interventions, il contribue à diminuer les interventions chirurgicales. Il permet de réduire de façon considérable, dans certains cas, la durée de l'hospitalisation. Et donc, à travers cela, il peut réduire de façon considérable le coût d'une maladie. Enfin, pour l'essentiel d'entre nous qui, tôt ou tard, seront malades, malheureusement, eh bien, ça permet d'améliorer de façon considérable la qualité de vie. Et je voudrais illustrer cela par des exemples très concrets. Par exemple, le rhumatisme articulaire aigu, grâce à l'arrivée des antibiotiques, a permis de réduire de façon considérable le taux de mortalité au cours des 30 à 40 dernières années. C'est la même chose pour l'ulcère, l'athérosclérose, les maladies ischémiques du cœur, les emphysèmes, l'hypertension. Cette liste est non exhaustive. À chaque fois, vous voyez des progrès considérables qui n'ont pu être réalisés qu'à travers la diffusion de nouvelles thérapeutiques médicamenteuses. Mais il y a des éléments, je dirais, encore plus évidents. Quand on voit, par exemple, l'impact que les vaccins contre l'hépatite B ont pu avoir contre ce fléau. Vous voyez ici la division par 3 du nombre de cas aux États-Unis de patients souffrant d'hépatite B suite notamment à l'introduction du vaccin contre l'hépatite B. Autre exemple, je dirais, encore plus frappant de ces dernières années par rapport au fléau du sida. Lorsqu'on regarde le coût annuel moyen d'hospitalisation, et ce sont des statistiques officielles qui viennent de la Blue Cross et Blue Shield à New York, d'un patient qui souffrait du sida, c'était de l'ordre de 100 000 dollars, soit en gros, disons, 600 000 francs par an. Depuis que des laboratoires pharmaceutiques ont mis au point les fameuses trithérapies, qui ne sont pas la solution malheureusement définitive de la lutte contre le sida, mais un progrès considérable, eh bien, le coût de ce traitement par l'association des médicaments représente 10 à 15% seulement du coût annuel d'hospitalisation des patients qui souffrent du sida. Et dans le même temps, vous voyez qu'en l'espace d'une année, le nombre de décès a été pratiquement divisé par 2. Si nous ne trouvions pas de solution médicamenteuse, notamment pour la lutte contre le sida, c'est une véritable explosion des dépenses de santé et qui pourrait faire exploser pratiquement les systèmes de santé, qui aurait pu faire exploser les systèmes de santé compte tenu de la croissance exponentielle du nombre de patients qui étaient infectés par le sida dans les pays développés notamment. Donc voilà des exemples très concrets de l'impact économique du médicament. On trouve cela aussi, je parlais tout à l'heure des parines de bas poids moléculaires, pour le traitement des accidents coronariens aigus. Un autre exemple où, pour chaque patient que l'on traite, on économise 10 000 francs. Et en plus, eh bien, on voit une amélioration du nombre de patients qui, s'ils n'avaient pas été traités par ces nouveaux produits, des héparines de bas poids moléculaire, eh bien, comme vous le voyez par rapport au traitement standard, soit aurait décédé, aurait eu un infarctus ou bien une récidive d'Angor de façon considérable, si vous voulez, par rapport au traitement de base qui existait déjà. Donc, je dirais en permanence, nous accumulons la preuve ce qu'on a, de l'impact positif de l'utilisation des médicaments sur les dépenses de santé. L'exemple que l'on cite le plus souvent, c'est en ce qui concerne les opérations chirurgicales liées aux ulcères. Eh bien, avant que n'apparaissent les anti-H2, ces antihistaminiques, eh bien, il y avait par exemple un nombre d'opérations chirurgicales pour traiter les ulcères de l'ordre de 100 000. Eh bien, désormais, grâce à l'apparition de ces médicaments pour traiter les ulcères sous forme de comprimés, tout simple, ou de gélules, donc de façon orale, eh bien, le nombre d'interventions chirurgicales a été divisé par 5. Et donc, je dirais en conclusion qu'il faut toujours avoir en tête qu'une politique industrielle qui s'appuie sur la chimie industrielle, mais aussi les nouvelles technologies, que ce soit la chimie combinatoire, que ce soit la génomique, que ce soit la bioinformatique, donc cette politique industrielle et une politique de santé sont tout à fait complémentaires et doivent avoir, je dirais, un certain nombre de caractéristiques très spécifiques pour réussir. Premièrement, c'est donner la priorité toujours dans les investissements en recherche au profit du vrai progrès thérapeutique, donc l'innovation. Il faut investir toujours plus avec un souci de qualité pour les bonnes pratiques, les bonnes pratiques de développement clinique. Il faut aller très très vite car on sait que la protection de la à travers la propriété intellectuelle et industrielle est limitée dans le temps. Il n'y a pas d'autre choix si l'on veut vraiment mettre au service des professionnels de santé des molécules innovantes. Il n'y a pas d'autre choix que de s'internationaliser, de se mondialiser si l'on veut arriver à financer les 3, 4, 5 milliards demain matin qu'il faut investir et la patience de 10 à 15 ans pour obtenir une nouvelle molécule sur le marché, même si on n'est pas sûr du tout que cette molécule puisse se vendre de façon significative. Et puis, il faut avoir, en accord avec les pouvoirs publics, ou bien là où il n'y a pas de réglementation avec les organismes payeurs, aux États-Unis, ça s'appelle les HMOs, par exemple, eh bien, une politique de fixation des prix qui permette de rémunérer cette innovation de telle façon que l'on puisse toujours attirer davantage d'investisseurs pour le progrès thérapeutique. Ceci doit s'allier à une politique de santé cohérente avec bien sûr des définitions sur les maladies prioritaires car il est clair qu'il y a tellement de besoins médicaux qu'il faut être sûr que pour chaque maladie où on va se battre et qu'on mette vraiment les moyens qui soient à la hauteur. Favoriser, encourager l'innovation, source de progrès social, source de progrès, bien sûr, de santé, de qualité de vie, mais aussi, comme je vous l'ai montré il y a quelques instants, d'économie pour vivre dans le budget social de la nation, mesurer toujours mieux les progrès, les résultats thérapeutiques, ce que les anglo-saxons appellent fact-based, evidence-based medicine, avec aussi mesurer les résultats économiques, prendre en compte les économies de gestion des hôpitaux, par exemple, et puis enfin et surtout, faire en sorte que tout le monde soit responsabilisé, responsabiliser tous les acteurs, les professionnels de santé, les industriels, mais aussi les patients, par une meilleure éducation à travers les différents outils, et notamment demain, dès aujourd'hui d'ailleurs, Internet, puisque c'est une source de communication avec le village virtuel qui est désormais à l'échelle mondiale pour l'ensemble des informations sur la santé. Et c'est pourquoi je pense que la chimie industrielle, pharmaceutique et la santé ont un magnifique avenir car il y a des besoins colossaux et c'est une chance exceptionnelle pour ceux d'entre nous qui travaillons dans ce secteur. Je vous remercie.
Nous remercions beaucoup M. Gilles Bresson et nous allons passer aux questions.
Monsieur, là.
Oui, monsieur là-bas.
Vous avez bien montré les trois aspects. L'aspect progrès, proprement dit, l'aspect sécuritaire et l'aspect économique. Ces trois aspects sont intéressants parce que les progrès, bien entendu, personne ne les discute. L'aspect sécurité, vous avez rappelé l'histoire de la thalidomide qui a poussé le facteur sécurité au premier plan. Il faut bien dire quand même que la thalidomide est encore un médicament qu'on utilise dans d'autres indications, donc avec des indications plus restrictives, mais il continue à être sur le marché. Et d'ailleurs, en France, il n'y avait pas eu d'accident du thalidomide du fait qu'on avait attendu précisément, par sécurité, un certain temps pour mettre le médicament sur le marché. Cependant, il y a une chose qui me fait peur, alors c'est le domaine économique. Parce que le domaine économique, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, il y a plusieurs acteurs, et notamment, il y a des multinationales, dont vous faites partie, mais peu importe, c'est pas à vous que... D'ailleurs, je n'attaque pas les multinationales parce que ce sont des multinationales, mais c'est un fait. Il est bien entendu que le but des multinationales, comme d'ailleurs de toute entreprise, c'est le profit. Et d'autre part, il y a l'aspect recherche. Cet aspect recherche, en partie, semble-t-il, d'après vos, si j'ai bien compris vos diagrammes, l'aspect recherche est surtout fait par des universitaires. Donc, par des organismes qui ne font pas partie des multinationales.
Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît?
Ma question, c'est justement sur l'économie. Est-ce que on n'est pas là dans un domaine où il y a, comment dirais-je, la mainmise, je peux dire, des multinationales sur les phénomènes de santé, d'autant plus que vous avez rappelé les maladies orphelines qui sont délaissées justement parce qu'elles sont orphelines, et d'autre part, il y a aussi ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire le fait que les médicaments seront plus ou moins dans un avenir proche individualisés. Donc là, les médicaments tendront, disons, à devenir orphelins. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup moins rentable. Et par conséquent, il faudra des épaules extrêmement larges pour soutenir. Alors, la question, elle est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire, notamment pour la recherche, pour que les dérives économiques ne se produisent pas?
Effectivement, vous avez bien noté les trois dimensions, progrès, sécurité et économie. Mais je voudrais saisir cette occasion de rappeler des faits qui sont têtus. Si on regarde les médicaments qui ont été mis au point et qui existent aujourd'hui, je crois que 99,99% de ces médicaments ont été mis au point par des laboratoires pharmaceutiques. Et il ne faut pas confondre deux choses. D'une part, la recherche fondamentale, d'une part, et la recherche appliquée. Et donc, la vérité est que les montants que je mentionnais en ce qui concerne les investissements en recherche et développement d'entreprises industrielles, qui représentaient, je le disais, 2-3 milliards de dollars, ce sont des sommes considérables, qui sont d'ailleurs sans commune mesure désormais, avec des budgets de recherche, de recherche universitaire dans certains cas. Donc le problème, très sincèrement, n'est pas du tout une question de recherche privée et recherche publique. Ce n'est pas une concurrence, c'est une véritable complémentarité. Et les entreprises industrielles n'ont pas comme finalité le profit. Le profit, c'est une condition de survie et de réinvestissement. Je le dis souvent à nos collaborateurs et collaboratrices, quand une entreprise fait du profit, ce profit n'est pas distribué à des gens, ce profit est pour l'essentiel réinvesti dans l'entreprise, aux deux tiers, aux trois quarts. Et donc, il ne faut pas voir cette notion de profit, pour être très direct, puisque vous avez... Et je vous en remercie de poser une question très directe. Il ne faut pas voir cela comme un handicap, mais c'est un levier économique pour toujours aller de l'avant, investir dans des laboratoires, investir dans la formation de chercheurs. Et effectivement, ce qui est absolument crucial, c'est qu'il y ait un respect mutuel entre les priorités de la recherche universitaire académique, les priorités de la recherche appliquée, et qu'il y ait un dialogue une collaboration, un respect mutuel, de véritables engagements, des partenariats, de telle que façon que là où on peut valoriser dans l'intérêt de la santé publique des recherches qui ont été faites au laboratoire sur la physiopathologie, par exemple, eh bien, il ne faut pas que ces recherches restent enfermées dans un tiroir. Sinon, prenons le sida. S'il n'y avait pas eu de laboratoire pharmaceutique, il n'y aurait pas de trithérapie aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu l'Institut Pasteur, il n'y aurait pas non plus de trithérapie pour lutter contre le sida. Et c'est véritablement, dans notre esprit, un respect mutuel et un esprit d'ouverture et de complémentarité qu'il faut avoir dans ce domaine-là. C'est exactement ce point. Je veux dire que la collaboration qu'il peut y avoir entre des instituts de recherche, que ce soit des universitaires, ou bien je mentionnais l'Institut Pasteur, qui est un des fleurons, je dirais, de la recherche fondamentale, eh bien, c'est, je crois, tout à, je dirais, à l'honneur de la France d'avoir une telle capacité, une telle compétence médicale, scientifique, de recherche, qui peut rayonner au bénéfice des populations dans le monde entier.
Oui.
Monsieur, là-haut.
Oui. Vous nous avez donc parlé de médicaments qui n'auraient de bénéfice que pour quelques centaines de malades et pas assez pour les entreprises qui les auraient découvertes. Vous n'avez pas parlé du cas parallèle, c'est-à-dire de médicaments qui auraient des bénéfices pour des centaines de millions de personnes atteintes, mais où ces pathologies séviraient dans des pays non solvables.
Oui.
Bien sûr. Parasitologie. Personnellement, je connais au moins un cas d'un médicament qui a été inventé, découvert, et qui a manifestement une action pour une pathologie qui atteint ces centaines de millions et qui a été mis dans un tiroir, breveté, évidemment, sans qu'on dise forcément dans le brevet tout ce que ça fait, et ça n'a pas été développé. Alors, pour introduire votre intervention, vous nous avez dit, manière de plaisanter, qu'Aventis connaissait la formule de la potion magique, mais qu'elle était brevetée et gardée secrète. Faut-il en conclure ?
Je vous rassure tout de suite, oui, ce n'était pas vrai.
Laissez-moi. Il faut aussi raisonner un peu par l'absurde. Faut-il en conclure, connaissant les motivations essentielles des actionnaires des sociétés pharmaceutiques, pérennisation, disons, que si l'information était vraie, la panacée ne serait pas développée, en tout cas pas pour le bénéfice du plus grand nombre, ne serait-ce que parce qu'elle cannibaliserait progressivement les marchés des autres drogues et à terme tuerait la poule aux œufs d'or.
Vous savez, je suis très heureux que vous posiez cette question, tout particulièrement en ce qui concerne par exemple des maladies parasitaires ou des maladies infectieuses dans les pays en voie de développement. Le drame auquel on est confronté, et vous pouvez prendre différents exemples, que ce soit la bilharziose, que ce soit la leishmaniose, les maladies mais les plus courantes, ou encore le sida, malheureusement, aujourd'hui, dans de très très nombreux cas de maladies, les médicaments existent. Ils existent. Malheureusement, c'est vrai que les populations ne peuvent pas accéder à ces médicaments pour des raisons économiques, d'infrastructures ou même d'observance. Quand on prend par exemple la question des trithérapies pour le sida, comme vous le savez, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé des médicaments qui permettent de soigner le sida en ayant un mode d'administration simple. Il faut chaque jour prendre, c'est au moins 8 comprimés par jour. Et quand on va dans certains pays d'Afrique, vous savez que le problème numéro un, eh bien, c'est malheureusement la compliance, le manque de compliance. Et que même ces médicaments, dans un certain nombre de cas, lorsqu'ils sont disponibles, eh bien malheureusement, les gens ne respectent pas cette compliance. Et donc, le premier des problèmes auxquels on est confronté, dans un certain nombre de cas, je dirais, des très grands fléaux pour les pays en voie de développement, ce n'est pas l'absence. Le paludisme, par exemple, même dans les formes réfractaires, il existe des médicaments. Mais le problème, véritablement, n'est pas l'absence de médicaments, mais véritablement des politiques de santé, de choix, je dirais même politiques au niveau local, qui font que ces médicaments ne peuvent pas être disponibles. Ceci dit, je sais qu'il est parfois tentant de penser que des produits qu'il y aurait des produits qui seraient cachés et qu'une entreprise ne voudrait pas mettre à la disposition de malades. Mais franchement, je ne vois pas pourquoi les gens ne feraient pas cela. Lorsqu'il y a, pour des maladies orphelines, des médicaments qui montrent éventuellement qu'il y a peut-être une piste et que là, peut-être que ça peut marcher. Je vais prendre un cas que je connais très bien. Nous avions dans notre entreprise travaillé pendant des années et des années, dans les années 70 et 80, pour un médicament était un produit actif sur le glutamate. Et après avoir travaillé, essayé de démontrer son activité contre la schizophrénie, ce produit a été mis dans un tiroir, effectivement, parce que les résultats étaient négatifs. Et puis certains de nos chercheurs, il faut avoir du courage, il faut avoir un petit peu d'imagination, ont essayé de tester ce médicament dans un modèle très particulier, qui est un modèle d'une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot. Et il y a eu des informations qui leur ont paru intéressantes. La maladie de Charcot, en France, c'est moins de 3000 personnes qui en souffrent. Mais c'est une maladie, depuis qu'elle a été découverte par le professeur Charcot à la fin au siècle dernier, malheureusement, cette maladie qui est fatale, puisqu'en l'espace de 3-4 ans, malheureusement, les gens qui sont diagnostiqués avec cette maladie, eh bien, les gens meurent par une dégénérescence musculaire. Eh bien, on n'avait jamais trouvé quoi que ce soit qui puisse avoir démontré la moindre activité. Eh bien, même s'il n'y avait que 3000 personnes qui pouvaient en bénéficier en France, nous avons travaillé, nous avons fait des études cliniques, d'abord sur 200-250 personnes, je crois. Et là, on a vu qu'effectivement, il semblait que ça marchait. Du coup, on a fait une étude sur près de 1000 personnes et on n'a pas pu la faire en France seulement parce que c'était trop important. On a été aux États-Unis, en Belgique, dans beaucoup de pays. On a fait une étude qui a démontré qu'on pouvait ralentir la progression de la maladie et on a mis à disposition pendant des années ce produit gratuitement en attendant la confirmation de ces résultats pour ces patients. Ce médicament a été mis à disposition. Et très sincèrement, si on avait été vraiment obsédé par le profit, par vouloir traiter des millions de gens, jamais on n'aurait fait ça. Et donc on le fait chaque fois où il semble qu'il y a une piste qui mérite. Donc fondamentalement, notre objectif, nous en tant qu'entreprise industrielle, c'est d'apporter quelque chose qui puisse effectivement avoir une valeur pour les patients, pour les professionnels de santé, mais qui soit en même temps acceptable pour les organismes payeurs, car les organismes payeurs qui prennent en charge l'ensemble des dépenses de santé, eh bien, n'acceptent pas de prendre en charge financièrement des médicaments qui ne montreraient pas une bonne efficacité par rapport à ce qui peut exister. Et comme des maladies comme le paludisme, par exemple, ou l'échmagnose, il existe des médicaments depuis de très nombreuses années. Sans dire, c'est vrai que la misère du monde et la pauvreté sont malheureusement des conditions extrêmement favorables au développement de tout un tas de maladies et qui créent des besoins médicaux qui sont disproportionnés par rapport, je dirais, à la mobilisation qui peut exister de tous les agents économiques et politiques à l'échelle mondiale. Et en ce sens, je vous rejoins tout à fait.
Une question là-haut.
Je voudrais demander à monsieur, dont j'ai oublié le nom, je voudrais lui faire quelques remarques plus tôt. Les produits, la pharmacie produit des médicaments ciblés sur l'homme pour la cure et la prévention, mais la prévention génétique. Très bien. Mais les maladies en France ont doublé en 20 ans. Dans le monde également, les morbidités augmentent. Or, les morbidités ne sont pas examinées par les États. On ne connaît pas le taux de morbidité pour l'ensemble des maladies, ni pour chaque maladie particulière. Donc, il se produit petit à petit et insensiblement une dépendance humaine accrue aux drogues chimiques. Donc, il y a là une anomalie parce que les maladies sont causées à 80% par des facteurs d'environnement. Or, l'environnement se dégrade, tout le monde le sait, l'eau, l'air, les sols sont remplis de poisons qui ont des effets encore mal maîtrisés ou pas maîtrisés du tout. Alors, est-ce qu'il est bon de toujours réparer, sans se préoccuper de la cause de l'augmentation des maladies? Je fais une petite remarque en ce qui concerne le PIB. Évidemment, tous les économistes de la santé disent que le PIB augmente quand les pays sont riches, donc à cause de la richesse des pays. Plus on est riche, plus on se soigne. Mais ça n'est probablement pas exact, parce que les pays les plus riches sont aussi les plus anciennement pollués. Il y a donc probablement une relation entre l'augmentation des dépenses de santé et l'augmentation des maladies, d'une part, et d'autre part, les pollutions multiples et généralisées des environnements. Donc, nous avons une petite idée pour, monsieur, pour les entreprises pharmaceutiques. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais je pense que la population y serait favorable. Il faudrait que ces industries, comme l'a déjà fait Rhône-Poulenc pour les sols, se diversifient pour le nettoyage parfait de l'eau, de l'air, des sols, pour le nettoyage, pour l'herméticité des entreprises et des communes. Voilà un bel avenir qui rendrait service aux populations, qui diminuerait le taux de leurs maladies. Là aussi, on devrait pouvoir trouver des technologies de haute valeur ajoutée dont les laboratoires sont si friands. C'est un domaine à développer, il faut absolument en parler. Voilà, je vous remercie.
Très bien. Je ne peux être que d'accord avec vous sur le fait qu'il y a, dans un certain nombre de cas, des facteurs extérieurs, pas simplement génétiques, mais externes. On cite toujours la pollution et l'asthme. Il y a certainement des relations dans certains cas, et je laisserai les experts décider de l'importance respective des différents facteurs. Et c'est pourquoi je vous rejoins tout à fait, loin de nous de penser que la solution à l'amélioration de la maladie passe de façon exclusive par le médicament. Et qu'il y a tout un tas de mesures de l'environnement, de la protection de l'environnement, notamment de l'eau. On parlait des pays en voie de développement il y a quelques instants. La question de l'eau est la première question, probablement. L'accès à l'eau pure et non pas polluée est certainement la première règle d'hygiène qui contribue à éviter bon nombre de maladies et, de ce fait, éviter d'avoir recours à des drogues dures ou douces, comme les médicaments qu'on peut utiliser.
Monsieur, à côté.
Monsieur le Président, oui. Suite à l'intervention du docteur Vudessing, vous avez cité... pardon, vous m'entendez bien, là ?
Oui, oui, parlez près du micro. Oui.
Vous avez cité dans votre intervention, je crois à la fin, les maladies prioritaires à définir, et puis la responsabilité des acteurs. Alors nous sommes en train de réfléchir, donc le docteur Vudessing, qui préside l'association de santé en information, l'association pour l'information en santé publique, et moi-même qui ai fondé l'association d'écologie industrielle, nous sommes en train d'étudier, de fonder une association pour essayer de mieux étudier et de prévenir les maladies qui sont de plus en plus liés à l'environnement. Et à ce titre, ce n'est pas une question, c'est simplement une aide que je vous demanderai, soit par l'intermédiaire éventuellement d'une de vos sociétés ou d'un réseau que vous avez cité. Si vous pouvez avoir la gentillesse, avant de partir, de regarder le dossier que je vous ai présenté.
Bon, d'accord, je vous remercie beaucoup. Si ça vous dérange
pas. Avec plaisir.
Il y a deux questions, une en bas, là, pour la dame.
Et puis à droite, il y a des messieurs qui voulaient poser des questions, qui lèvent le doigt depuis. Ils sont très patients.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Ma question sera plus courte. Enfin, vous avez longtemps parlé, beaucoup parlé, de la part économique qu'on a besoin de prendre en compte pour produire le médicament. Et qu'il faut prendre en compte, notamment la recherche. Est-ce que vous avez quelques éclaircissements à donner sur la constitution du prix du médicament, globalement, bien sûr, la part de recherche qui est inclue? Est-ce qu'il y a des différences entre le type de détermination du prix du médicament compte tenu de son prix de production, la part d'études, comment ça se règle, comment ça se fait?
Malheureusement, on ne peut pas additionner, si je peux me permettre cette expression très vulgaire, des choux et des carottes. Parce qu'effectivement, selon le type de médicament, quand on regarde le prix de revient de fabrication industrielle, puisque le thème de cette séance aujourd'hui sur laquelle on m'a demandé d'intervenir, c'était chimie industrielle, Et je reconnais dans cette salle certains chimistes qui sont à l'origine de magnifiques médicaments, notamment antibiotiques. Eh bien, selon qu'il y a plus ou moins de phases de chimie, eh bien, le prix de revient peut être plus ou moins élevé. Mais on ne peut pas additionner cela, si vous voulez, avec le fait que, avant même de fabriquer ce médicament, nous aurons dépensé 3, 4, 5 milliards de francs pour obtenir ce médicament. Si nos chercheurs sont particulièrement efficaces, imaginatifs et créatifs, eh bien, au lieu d'avoir un médicament tous les 15 ans, eh bien, nous en sortirons un tous les 5 ans, tous les 10 ans, et ça divisera le prix de revient par 2, par 3. Et donc, tout le problème est là. C'est qu'en fait, la première chose, c'est trouver les moyens que cet investissement colossal en recherche et développement puisse être productif plus fréquemment. Et c'est pourquoi nous sommes tous extrêmement heureux de voir ces nouvelles technologies de la chimie combinatoire, parce qu'à l'époque, je pense à quelqu'un qui est dans cette salle et qui a travaillé pendant des années de sa vie pour mettre au point un antibiotique qui sauve des vies chaque jour dans le monde entier, parce que c'est le seul antibiotique qui permet de tuer des bactéries qui sont résistantes à tous ces autres antibiotiques. Il a fallu des dizaines et des dizaines de personnes, rien qu'en chimie, pour mettre au point ce médicament, de tester je ne sais combien de formules avec deux composés de biofermentation, avec de la chimie par-dessus pour avoir un composé d'hémisynthèse, et qu'aujourd'hui, on peut espérer que la chimie combinatoire, que le criblage à haut débit nous permettra d'aller beaucoup plus vite et faire en sorte que ça coûte beaucoup moins cher pour obtenir une molécule à travers cet investissement de recherche et développement, et qui fera que progressivement, on pourra faire en sorte que les médicaments revenant moins chers pourront être commercialisés à des prix inférieurs. Mais ce sont deux choses différentes. Je ne vais pas rentrer dans la comptabilité industrielle, mais la comptabilité, si vous voulez, industrielle, des prix de revient industriels, ça n'a rien à voir avec la comptabilité de la recherche et du développement. Mais il faut prendre en compte ces deux éléments. Et vous avez certains médicaments, c'est vrai, qui font appel à des technologies, alors là, industrielles, extrêmement coûteuses. C'est le cas notamment, par exemple, du génie génétique, où là, il est clair que quand, par exemple, on travaille dans le domaine de la thérapie génique, les conditions de production de vecteurs, d'une part, et pour pouvoir insérer ensuite un gène avec ce vecteur, pour pouvoir remplacer un gène tel que le gène P53, eh bien, ça demande des équipements qui sont sans commune mesure avec la fabrication d'un comprimé d'aspirine, si vous voulez, parce que ça fait des dizaines d'années que l'on fabrique des comprimés d'aspirine, et c'est pourquoi un comprimé d'aspirine ne vaut pas cher aujourd'hui, car on a pu amortir tous les efforts de recherche et de fabrication industrielle.
Voilà, on va prendre une dernière question, monsieur.
Bonsoir. Vous avez dit beaucoup de choses. Il est très difficile de répondre ou de parler en termes sibyllins de quelque chose qui peut être intéressant. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez dit quand même quelque chose qui me frappe concernant les pays développés et sous-développés. D'après moi, les pays riches consomment trop de médicaments. La richesse, elle a augmenté plus les maladies en termes que la pauvreté. On trouve l'obésité. Il y a 50 millions d'enfants obèses en France. Il y a 6 millions de femmes stériles. Il y a 6 millions de femmes stériles par la maladie de chlamydée. Il y a encore il y a l'espérance de vie, il faut la reconvertir en termes de maladie Alzheimer et de Parkinson. Enfin, c'est vraiment une guerre qu'on est en train de faire. Il faut 14 ans pour fabriquer un médicament. 5% simplement de guérison. Et 3 milliards pour un médicament. Il existe plus de médicaments que de maladies. Enfin, avec la chimie combinatoire, il faut pas désespérer de trouver des médicaments dans la maladie qui n'existe pas encore. Alors, il ne faut pas vraiment pavoiser, investir. Vraiment, le contribuable, il a plus de chances de survivre si on le laisse tranquille que d'attendre vraiment un vaccin.
D'accord, je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé de répondre.
Vous avez fait différents commentaires. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que nous, notre vocation, c'est d'être au service de la santé publique, de l'ensemble des populations. On n'est pas capable aujourd'hui de trouver des médicaments qui permettent de résoudre toutes les maladies, malheureusement. Mais je crois qu'en toute sincérité, que si la recherche universitaire, académique, la recherche appliquée que nous représentons, les industriels, les ouvriers, les techniciens qui travaillent chez nous chaque jour pour fabriquer tous ces médicaments, si ces gens travaillent avec un esprit de partenariat, on arrivera progressivement à gagner ce que vous appelez une guerre, mais bataille après bataille, que ce soit les maladies infectieuses, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit le cancer. On a fait des progrès considérables, mais surtout aussi, et là je rejoindrai des commentaires qui ont été faits, c'est que le médicament n'est pas une fin en soi exclusive. La vaccination et la prévention, et les vaccins, la prévention sur l'environnement, c'est un ensemble de mesures qui doivent être prises pour améliorer la santé publique. Et nous ne sommes que l'un des maillons de cet ensemble.